Voici une question qui requiert une réponse claire pour tout être humain. Est-ce qu'une personne peut échapper aux conséquences du péché? Nous verrons la réponse que donne la Bible à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. L'enseignement qu'on va recevoir au cours de cette émission va répondre à des questions qu'on ne devrait jamais prendre à la légère. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Voici ces questions. Est-ce que nos bonnes œuvres sont une preuve, un fruit du salut qu'on a reçu, ou sont-elles un moyen de recevoir le salut? Est-ce qu'on est automatiquement sauvé en se joignant à une église ou en se faisant baptiser? Le péché a-t-il toujours des conséquences sérieuses? Et dans une toute autre ligne de pensée, est-ce qu'il y a des cas où Dieu accepte la polygamie? Est-il important d'être certain que ce que nous demandons à Dieu dans nos prières est selon sa volonté? Dieu veut sûrement nous donner des réponses claires à ces questions. Et le pasteur Régent Joly a déjà sa Bible ouverte, là où Dieu a inspiré ses écrivains pour nous faire connaître sa volonté. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs à bien comprendre ce bel enseignement qu'il va nous donner aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin constamment que tu disposes nos cœurs. Nos cœurs sont portés à s'éloigner de toi, mais on veut être près de toi. On veut être à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Parle, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes chers amis, aujourd'hui nous reprenons notre étude au 8e verset du chapitre 17 du livre de la Genèse. La dernière fois, j'ai affirmé que le chapitre 17 est le chapitre clé du livre. Certains vont jusqu'à dire que c'est le chapitre clé de la Bible. Quoi qu'il en soit, tous s'entendent pour dire que ce chapitre est exceptionnel. L'élément important de ce chapitre est l'alliance. Ce mot revient 13 fois dans le texte. Dieu fait une alliance avec Abraham dans laquelle il promet deux choses. Dieu promet une postérité à Abraham. Il lui promet qu'il sera le père d'un grand nombre de nations. Deuxièmement, Dieu lui donne un pays. Maintenant, c'est cet élément de l'alliance que nous allons examiner. Débutons, poursuivons notre lecture de Genèse 17, verset 8. « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Notez un détail très important au sujet de cette alliance. Dieu dit à Abraham ce qu'il va faire. Dieu dit, « Je te rendrai fécond. « Je ferai de toi des nations, j'établirai mon alliance, je te donnerai, et à tes descendants, le pays en possession perpétuelle. » Nous avons déjà noté le mot « perpétuel » auparavant. Cela signifie que Dieu a fait une alliance avec ce peuple, une alliance perpétuelle, qui ne sera pas facilement rompue. Ce n'est pas une alliance qui expirera. Dieu leur a donné une possession perpétuelle. Israël a habité ce pays à trois occasions. C'est leur pays. Mais Israël peut l'occuper que sous certaines conditions. Dieu a premièrement envoyé les Israélites en Égypte, où ils furent dispersés. Ils formèrent un peuple. 70 personnes ont émigré en Égypte. Ils étaient 1,5 million au moment de leur sortie du pays. Puis, ils furent amenés en captivité à Babylone, parce qu'ils s'étaient tournés vers les idoles. Ils ne témoignaient plus de Dieu. Ensuite, ils furent expulsés du pays. En 70, après Jésus-Christ, après le rejet du Messie, ils ne sont jamais revenus de cette dispersion. Dieu a prédit à trois reprises qu'ils seraient amenés hors du pays, et à trois reprises, il a dit qu'ils y reviendraient. Cela s'est produit, chers amis. Les deux premières fois, lorsqu'ils y reviendront pour la troisième fois, mais je comprends qu'ils ne sortiront plus jamais du pays. Nous serons alors dans le millénium. Dieu les rassemblera et les établira dans le pays. Je ne pense pas que leur présent retour en Palestine soit un accomplissement de la promesse de Dieu. Je pense que quelqu'un qui affirme cela fait du sensationnalisme. Nous essayons beaucoup trop de faire du sensationnalisme avec la prophétie de nos jours. Les prophéties sont sensationnelles si nous les considérons telles que Dieu nous les a données. Cependant, il faut faire attention de ne pas y ajouter quoi que ce soit. Il ne faut pas faire dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Poursuivons notre lecture. Versets 9 et 10. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » La circoncision est un signe de l'alliance. Dieu n'a pas fait une alliance avec eux parce qu'ils étaient circoncis. Mais il leur a demandé de se faire circoncire parce qu'une alliance fut faite par Dieu. Ce détail est important, car c'est le même principe avec les œuvres. Dieu ne nous demande pas d'acheter notre salut par de bonnes œuvres, mais Dieu nous sauve premièrement, et c'est pour cela que nous pratiquons de bonnes œuvres. C'est là toute la différence. Je vais vous expliquer cette vérité avec une anecdote de ma vie. Lorsque j'étais jeune, j'ai dû quitter le domicile familial, et cela m'a attiré de nombreux ennuis. Cependant, j'attribue à l'influence de mon père le fait que je ne sois pas devenu un criminel endurci. J'ai refusé de faire certaines choses, d'aller avec certaines personnes, parce que j'étais le fils de mon père. Je vais vous expliquer davantage. Je ne suis pas devenu le fils de mon père parce que je me suis abstenu de certaines choses, mais j'étais déjà le fils de mon père. C'est pour cela que je me suis restreint dans certaines voies. La circoncision est le signe de l'alliance, pas le moyen d'entrer dans l'alliance, mais c'est la preuve que les Israéliens en faisaient partie. Lisons les versets 11 et 12. « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » Avez-vous remarqué comment méticuleux est le récit de la naissance de Christ? Comment tous les éléments de la loi furent respectés? Le petit bébé naissant était un fils d'Abraham, un fils de David. Il était dans la lignée, et le 8e jour, il fut circoncis. Il est né sous la loi, comme l'affirme l'apôtre Paul. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. La circoncision était un signe de l'alliance qui avait déjà été faite. Il est très important de comprendre cela. Bien des gens pensent que s'ils joignent une église ou s'ils se font baptiser, qu'ils seront sauvés. Non, mes amis, nous ne faisons pas cela pour obtenir notre salut, mais vous le faites si vous êtes sauvés. À titre de pasteur, laissez-moi vous dire que si vous êtes sauvés, vous allez vous joindre à une assemblée de croyants et vous vous ferez baptiser. Cependant, vous ne faites pas cela pour mériter votre salut. La charrue doit suivre le bœuf, et non le précéder. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui en termes de salut. Revenons à notre texte, verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Le fait que certains individus n'obéissaient pas n'annulait pas l'alliance. En fait, presque tout le peuple n'était pas circoncis lorsqu'il sortit d'Égypte. L'individu désobéissant était exterminé, car il refusait l'alliance. Mais aucun individu ou aucun groupe ne pouvait annuler l'alliance faite avec le peuple d'Israël. L'alliance faite avec Abraham et sa postérité est une alliance perpétuelle. L'homme qui brise l'alliance est exterminé, mais l'alliance demeure en vigueur. Cela est merveilleux. Verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. » Dans la culture hittite, lorsqu'un roi faisait une alliance avec un vassal, aujourd'hui nous disons un subalterne ou un subordonné, il donnait un nouveau nom aux personnes qui se soumettaient à lui. Dieu donne donc aussi un nouveau nom à Saraï. Verset 16. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Tout comme Abraham sera le père d'une multitude de nations, Sarah sera la mère d'une multitude également de nations. Des rois sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? » Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham rit. Mais ce n'est pas dû à de l'incrédulité. Je pense que c'est un rire de joie lorsqu'il voit que la chose arrivera. De temps à autre dans notre vie, Dieu fait des choses pour nous qui nous émerveillent. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont vécu ce genre d'expérience. Vous êtes tellement heureux et émerveillé que vous ne faites que rire. Vous ne savez pas quoi faire d'autre. Vous riez. Vous exprimez votre joie. Abraham ne pensait pas que la chose était possible. Mettez-vous à sa place. Il n'avait jamais entendu parler d'une chose semblable. Abraham était âgé et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Avez-vous remarqué comment l'apôtre Paul décrit cela dans le Nouveau Testament? Allons au chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Je veux partager avec vous un texte à partir du verset 17. Et je cite, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. » Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Romains chapitre 4, les versets 17 à 22. Abraham crut Dieu, et il est émerveillé par la puissance et la bonté de Dieu. Mais une pensée vient soudainement à son esprit. Il pense au fils qu'il a déjà. Et cette pensée est comme une flèche qui perce son cœur. Il pense à Ismaël. Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Ismaël avait 14 ans lorsqu'Abraham l'envoya s'établir au loin. Il était attaché à ce garçon. Je ne pense pas qu'Abraham l'ait revu, et cela lui a brisé le cœur. Quoi que vous pensiez d'Ismaël, il était le fils d'Abraham, et le père aimait le fils. Il trouva très douloureux de l'envoyer. Abraham a dû se dire plusieurs fois qu'il avait fait une erreur en allant vers Agar. C'était un péché. Il en a souffert. Maintenant, regardez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Il y a toujours eu du trouble dans ce pays depuis le début. Pourquoi? À cause du péché d'Abraham. Ne me dites pas que le péché n'est pas grave et que nous pouvons échapper à ses conséquences. Il y a un texte de la Bible, Galates 6, verset 7, et je cite, qui nous dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Abraham récolte ce qu'il a semé. Ô, qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dieu dit à Abraham qu'il n'accepte pas qu'Ismaël soit l'héritier de la promesse. La naissance d'Ismaël est le résultat du péché. Ne venez pas me dire que Dieu accepte la polygamie, parce qu'elle est pratiquée dans la Bible. Dieu condamne la polygamie. Versets 20 et 21. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu maintient sa position. Il ne se laissera pas détourner de sa promesse. Il accomplira exactement ce qu'il a dit. Il parle comme si Isaac était déjà né, qu'il se trouvait déjà parmi eux, avec eux. Il parle de choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais cela se produira l'année suivante. Verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Autrement dit, Abraham, il est inutile d'insister. Dieu a déjà annoncé sa décision, sa volonté. Mes amis, il y a des temps et des choses que nous ne mentionnerons pas à Dieu dans nos prières. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu. Il y a certaines choses pour lesquelles il est inutile de continuellement solliciter Dieu. Il y a un temps où nous en avons assez dit. Il est inutile de prier davantage. Il est inutile d'importuner Dieu, car il a déjà répondu non. En s'élevant, Dieu dit à Abraham de ne plus insister, de ne plus mentionner le sujet, car il n'accepte pas Ismaël comme héritier de la promesse. Il n'a pas l'intention de le faire. Plus loin, nous allons voir que Dieu a entendu Abraham et qu'il a répondu à sa prière au sujet d'Ismaël, mais d'une autre façon. Je remarque de nos jours qu'un bon nombre de personnes prient pour des choses que Dieu ne veut pas entendre ni accorder. Je suis très prudent lorsque je demande aux gens de prier pour certaines choses. J'aime savoir qu'il y a des possibilités raisonnables que Dieu veuille entendre et répondre à la requête. Maintenant, nous arrivons au verset 23. Et nous y remarquons l'intérêt que porte Abraham au garçon. Lisons les textes 23 à 27 de Genèse 17. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Cette circoncision est le signe de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Certains peuvent se demander pourquoi Ismaël fut inclus. Dieu a promis qu'il serait aussi une grande nation, donc il est inclus dans l'alliance. Mais il n'est pas l'héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham au début. Il ne sera pas le père des nations que le Seigneur utilisera. Ce n'est pas par Ismaël que le Messie viendra. Ce détail est très important. Enfin, tout dans ce chapitre est important. Nous passons au chapitre 18. Nous pouvons nous demander pourquoi ce chapitre ainsi que le chapitre suivant sont inclus dans la Bible. Nous trouvons la raison dans le Nouveau Testament et nous la verrons plus tard. Ce chapitre traite de la destruction de Sodome et Gomorre. C'est un long chapitre avec 33 versets. Mais j'aimerais toucher quelques points majeurs dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre suivant. Lisons au verset premier, le chapitre 18, dans lequel Dieu informe Abraham de la destruction de Sodome et Gomorre, et celui-ci intercède pour les villes sur le point d'être détruites. Nous voyons ici une vie bénie et en communion avec Dieu. Verset premier. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Abraham, l'homme assis devant sa tente parmi les chênes de Mamré, est un vieil homme. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Remarquez l'hospitalité dont Abraham fait preuve. Abraham était un homme généreux et hospitalier. Versets 3 et 4. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Chers amis, ici Abraham reçoit ces trois hommes en les appelant « Seigneur ». Nous assistons à une autre théophanie, une apparition de Dieu. Nous en reparlerons à la prochaine émission. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ceci nous semble un peu étrange. Nous ne recevons pas les gens leur offrant de se laver les pieds. Mais cela était une coutume des plus anciennes que nous connaissons. Dans la chambre haute, notre Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Il y a un message spirituel important dans cet incident. Et ici, nous voyons Abraham proposer aux visiteurs de laver leurs pieds. C'est un geste très hospitalier. À cette époque, les gens enlevaient leurs sandales et on leur lavait les pieds. Ils n'enlevaient pas leur chapeau comme aujourd'hui, mais ils enlevaient leurs chaussures. Nous, nous gardons nos souliers et nous enlevons notre chapeau. Je ne sais pas qui a la meilleure coutume, mais j'aime l'idée d'enlever ses souliers. Une personne devait se sentir comme à la maison, car elle enlevait ses souliers et se lavait les pieds. Donc, Abraham accueille royalement les trois visiteurs. Poursuivons. Versets 5 à 8. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. N'est-ce pas un bel exemple d'hospitalité? Une réception royale pour les visiteurs. Chers amis, la Bible nous exhorte, nous encourage à nous accueillir les uns les autres. Nous rejoindrons de nouveau ces gens attablés pour prendre ce copieux repas à la prochaine émission. Préparons-nous en lisant chapitre 18, verset 9, jusqu'à Genèse chapitre 19, verset 5.
Merci, Régent. Comme tu nous l'as enseigné aujourd'hui, on peut constater que beaucoup de gens se croient sauvés, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont automatiquement la vie éternelle simplement parce qu'ils se sont joints à une église quelconque ou parce qu'ils sont baptisés. Il y a 12 ou 13 ans, j'ai rencontré un homme dont le mariage était sur le point de se dissoudre. Puis au cours de nos conversations, après l'avoir entendu donner le récit de sa vie, j'ai pu lui partager ce que Dieu avait fait pour moi, ce qui m'a permis de lui dire de quelle façon j'avais reçu le don gratuit de la vie éternelle. Je lui ai dit que je m'étais reconnue pécheresse, que je m'étais repentie, c'est-à-dire que j'avais eu un changement de cœur total à l'égard du péché, ce qui faisait que j'avais pris la décision de m'en éloigner. Puis je lui ai dit que j'avais mis ma confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de mes péchés, puisque c'était son sacrifice à la croix qui avait été agréé de Dieu pour qu'il m'accorde son pardon. que je lui ai conté comment j'avais été sauvée, comment j'avais reçu Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. J'ai cru que tout ça, c'était bien clair pour lui. Maintenant, je suis pas certaine qu'il a tout compris. Parce qu'un jour, il est venu dans mon assemblée. Mon pasteur a fait une invitation à la repentance et au salut à la fin de la réunion. Alors cet homme s'est avancé en disant qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour s'en sortir dans sa vie, qu'il décidait de donner sa vie au Seigneur. Quelque temps après, il a été baptisé. Puis dans les mois qui ont suivi, sa femme l'a laissé. Et peut-être 2 ans plus tard, il a épousé une chrétienne. Pas très longtemps après ça, il a graduellement abandonné ses assemblées pour ensuite abandonner totalement le Seigneur. Il s'est remis à boire, à aspirer aux choses terrestres. Par son comportement, il est évident qu'il était très malheureux. Alors, il s'était joint à une église, il avait été baptisé. Mais la Bible nous enseigne qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Elle nous enseigne aussi qu'on n'est pas sauvé parce qu'on adhère à une nouvelle religion ou qu'on est baptisé, mais par la foi en Jésus seul. C'est triste, mais je prie encore pour lui, pour que Dieu l'amène à voir combien il est malheureux, combien il doit réellement se repentir et revenir au Père, comme l'enfant prodigue. Si t'es dans la même situation que cet homme, n'attends pas qu'il soit trop tard. Viens à Jésus aujourd'hui. Demande-lui qu'il te donne cette vie éternelle qu'il a payée en entier à la croix. Reconnais que tu peux pas entrer au ciel sans passer par lui. C'est lui, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors emprunte le bon chemin. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais il y a juste un chemin qui mène au ciel. Ce chemin merveilleux, c'est la personne de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur.
Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, 2 régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain. Vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.